et Pascal Bénard. Le sort du programme d'économie de la Confédération adopté aujourd'hui par le Conseil fédéral est désormais entre les mains du Parlement. 1,5 milliard d'économies par an sont prévues entre 2011 et 2013. Le Conseil fédéral n'a pas retouché sa copie malgré les améliorations conjoncturelles et en dépit des protestations de plusieurs associations. Ainsi, 34 000 signatures avaient été récoltées par l'ATE, l'Association Transport et Environnement, contre une coupe de 15 millions dans les transports. Coupe qui entraînerait la fermeture de 160 lignes de cars postaux. Pour la présidente de l'ATE, la conseillère nationale verte Franziska Teicher, la lutte continue maintenant aux chambres.
Je crois que le Conseil fédéral voit seulement les chiffres dans sa comptabilité, mais il ne voit pas la réalité des gens qui vivent dans les régions périphériques. C'est clair que l'ATE et toutes les organisations qui ont lancé cette pétition pour garder toutes ces lignes régionaux continuent leur lutte pour les garder et on essaye aussi de renforcer encore notre engagement avec les cantons.
Justement, les cantons, ils seront aussi présents au Conseil des États. On peut vraiment imaginer que là, cette mesure, elle sera biffée du programme, non?
Espérons, comme c'est quand même très important pour les cantons, pour les gens dans les régions périphériques.
Propos recueillis par Pascal Jeanneret. Le candidat à la candidature UDC, Jean-François Rime, pourrait obtenir le soutien de certains PDC afin de ravir le deuxième siège libéral radical lors de l'élection à la succession de Hans-Rudolf Merz. Le 22 septembre, certains démocrates chrétiens pourraient ainsi suivre le PDC Bruno Frick. Sur notre antenne, le conseiller aux États Schwitzoal avait clairement déclaré « L'UDC doit avoir deux sièges au détriment du PLR, Valérie Howert ».
Au détriment du PLR, mais avec quelque chose en échange, Bruno Frick ne donnera sa voix à Jean-François Rime que si l'UDC renvoie l'ascenseur au PDC en 2011 pour décrocher un deuxième siège, probablement celui d'Evelyne Widmer-Schlumpf. Et le fait de connaître depuis hier l'identité romande du candidat UDC ne lui a pas fait changer d'avis. Son collègue zougois du Conseil national, Gerhard Pfister, entrevoit le même scénario. Il estime lui aussi que Jean-François Rime est tout à fait éligible, n'étant pas de la ligne dure de l'UDC. Quant au PDC romand, ils sont plus divisés, pour la plupart exclus de jouer ce jeu-là avec l'UDC, trop risqué de croire une promesse de leur part en retour pour 2011, surtout qu'avec les élections l'année prochaine, les forces en présence au Parlement risquent bien d'être modifiées. Le PDC décidera de sa stratégie vendredi lors de sa séance de groupe, une séance où, selon nos informations, le parti pourrait bien décider d'inviter Jean-François Rime à être auditionné la semaine prochaine.
Les quatre candidates socialistes au Conseil fédéral ont passé leur première audition cet après-midi. Jacqueline Fehr, Hildegard Fessler, Eva Herzog et Simonetta Sommaruga ont été entendues par le comité directeur du PS. Rien à filtrer de ces entretiens. À Fribourg, les initiatives se multiplient pour sauver la brasserie du Cardinal. Après l'idée d'une coopérative lancée par les jeunes démocrates chrétiens et soutenue par le président cantonal, c'est au tour des socialistes de la ville d'y aller de leurs propositions. Le PS demande que la commune rachète l'entier du site de la brasserie fribourgeoise. Un jour après la remise d'une pétition contre la ligne électrique à très haute tension Chamoson-Chipis, le gouvernement valaisan estime ne pas pouvoir juridiquement recourir contre ce type d'installation. Toutefois, pour tenir compte des inquiétudes de la population, il financera une étude indépendante. Il entend aussi lancer au niveau national une réflexion sur l'acheminement de l'électricité en Suisse. Yves Terrani a demandé à Gérard Gilliot, président de l'association de sauvegarde du coteau valaisan, si cette étude est source d'espoir pour lui.
Oui, de toute façon, c'est une source d'espoir puisqu'il y a une validation qui va se faire sur un tracé que nous avions proposé. Et je pense que là, avec des gens neutres et compétents, il y aura une solution qui va se dégager.
Jean-Michel China souhaite une réflexion sous forme de table ronde, une démarche qui se veut de portée nationale. Qu'est-ce que ça vous inspire?
C'est possible, ça dépend qui est invité à cette table ronde. S'il n'y a que des électriciens, ça ne sera pas valide. Mais il faut qu'il y ait aussi des gens qui habitent dans les régions où traverse cette ligne. Aussi des gens des communes qui sont concernés par le passage de ces lignes.
8 nouvelles éoliennes sont entrées en service au Mont Crozin dans le Jura bernois. Elles s'ajoutent aux 8 déjà en place. La production de courant vert pour cette année est déjà entièrement vendue. À terme, la centrale éolienne du Mont Crozin permettra de couvrir les besoins en électricité de plus de 12 000 ménages. On en sait un peu plus sur les causes de l'accident survenu vendredi dernier sur la ligne de l'Aigle, Sépel et Diableret dans les Alpes vaudoises. Le service d'enquête sur les accidents des transports publics a livré aujourd'hui ses premières conclusions. Le conducteur du train qui descendait n'a pas respecté l'arrêt de Plombu, là où les trains se croisent. Ariane Hasler.
Un arrêt non respecté, reste à savoir pourquoi. Techniquement, le croisement à cet endroit avait pourtant été confirmé par radio entre les deux mécaniciens. Les contrôles effectués sur les véhicules n'ont révélé aucun problème et la vitesse prescrite n'a pas été dépassée. Les enquêteurs vont donc devoir analyser l'aspect humain plus en détail. Le problème, c'est que suite au choc de l'accident, le conducteur du train qui descendait se rappellerait mal des événements. Quoi qu'il en soit, les investigations se poursuivent et le rapport final est attendu vers la fin de l'année. À noter encore que le service d'enquête va recommander au transport public du Chablais de s'équiper d'un système qui stoppe les trains lorsque le tronçon n'est pas libre. Un équipement déjà recommandé par les experts fédéraux après un accident qui avait causé 2 blessés légers en 2009. Pour rappel, l'accident de vendredi a fait 6 blessés parmi les voyageurs, plus les 2 mécaniciens. Une 40aine de personnes se trouvaient à bord.
À l'étranger, Barack Obama a assuré aujourd'hui que les extrémistes ne parviendraient pas à saborder le dialogue de paix direct qui doit débuter demain à Washington entre Israéliens et Palestiniens. Allusion à l'attentat perpétré hier en Cisjordanie contre des colons juifs, attentat qui a fait 4 morts. Le président américain a accueilli en milieu de matinée le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à la Maison Blanche pour une rencontre bilatérale de 90 minutes. Barack Obama devait recevoir ensuite aujourd'hui successivement le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le roi Abdallah de Jordanie et le président égyptien Hosni Moubarak. Dans une interview à l'agence Reuters, le leader palestinien Marwan Barghouti, incarcéré en Israël, ce leader estime que les pourparlers de Washington sont voués à l'échec. Et puis ce matin, en Cisjordanie, des Palestiniens ont manifesté contre ces négociations. Alors comment comprendre cette opposition au processus de paix? Question posée à Benjamin Barthes, notre correspondant à Ramallah. Écoutez.
Il faut bien comprendre que les quelques centaines de Palestiniens qui se sont réunis aujourd'hui à Ramallah, dans le centre-ville, ne manifestaient pas tant contre les négociations en tant que telles, mais contre ces négociations-là qui, d'après eux, ignorent le droit international. Ils expliquent que le cadre de référence qui a été choisi pour ces négociations ne mentionne pas les résolutions de l'ONU. Ces résolutions appellent Israël à se retirer des territoires occupés. Et le cadre de référence ne fait pas non plus mention de la nécessité pour Israël de geler la colonisation juive en Cisjordanie, un gel qui est une obligation pour Israël, qui a signé la feuille de route en 2003. Cette feuille de route demandait à Israël un gel de la colonisation. Les Palestiniens craignent un marché de dupes, avec au premier plan des poignées de main, des flashs, des belles déclarations, et puis en coulisses, la poursuite du grignotage de la Cisjordanie. Ils craignent qu'à nouveau se mette en place non pas un processus de paix, mais un processus sans paix.
Un homme armé retient plusieurs personnes en otage dans les locaux de la chaîne de télévision Discovery Channel à Washington, a annoncé ce soir la police. Selon les médias américains, il aurait un différend avec la chaîne de télévision. Les forces de l'ordre ont bouclé le secteur. Une employée interrogée sur la chaîne CNN indiquait que l'individu se trouvait dans le hall avec des explosifs attachés sur le dos. On ne sait rien d'autre pour l'instant. Sport tennis à l'US Open à Flushing Meadows. Stanislas Wawrinka s'est qualifié pour le deuxième tour. Le Vaudois a battu ce soir en 3 manches le Kazakh Mikhail Kukushkin. Laurence Bolomé.
Pas de problème pour Stanislas Wawrinka en effet ce soir face au 85e joueur mondial, auteur de très beaux coups mais tout de même un peu faible dans les échanges. Le Vaudois a du coup pu tenter de mettre en pratique à petite dose et à bon escient les préceptes de son nouvel entraîneur Peter Lundgren, qui se résume en quelques mots: plus d'agressivité. Une balle prise plus tôt, une montée à la volée dès que l'échange le permet. Tout cela sans renier son jeu basé sur la construction des points. Le résultat, en tous les cas aujourd'hui, est de bon augure pour la suite.
La municipalité de Lausanne est prête à investir 300 000 francs afin de mettre le stade de la Pontaise en conformité avec les exigences de l'UEFA, et cela afin de permettre au Lausanne Sport de jouer à domicile ses prochains matchs d'Europa League et non au stade de Genève. L'UEFA prendra sa décision ces prochains jours. À l'instar des autres marchés européens, dopés par plusieurs bons indicateurs économiques, la bourse suisse a fini en nette hausse aujourd'hui. Le SMI, le Swiss Market Index, a progressé de 2,45% à 6 332,43 points. Et à New York, à Wall Street, le Dow Jones prend 2,95% et le Nasdaq 2,97%. Vous écoutez la radio suisse romande, c'est la fin de cette édition. Pascal Bénard.
Le ciel est bien dégagé, il le restera toute la nuit. L'ambiance s'annonce très fraîche demain au réveil. Météo Suisse prévoit des températures en pleine de l'ordre de 7 degrés en Valais et de 9 degrés ailleurs. La Suisse est toujours protégée des intempéries par une dorsale anticyclonique. Les conditions évolueront à peine demain. Le soleil sera une nouvelle fois très présent dans la matinée. En revanche, l'après-midi, des voiles de nuages élevés, de plus en plus denses au fil des heures, donneront au ciel un aspect laiteux. Mais l'impression de beau temps ne sera guère entamée. Les températures se révéleront conformes à la saison, avec des maxima de 22 à 24 degrés, 24 dans la vallée du Rhône. La bise sera quasiment imperceptible sur le plateau. Le même type de temps est prévu pour les jours suivants. Ensoleillement généreux, parfois des voiles nuages en altitude et des températures maximales jusqu'à 22-23 degrés. Les ingrédients ne changeront pas.
La météo avec De Villard. Solution d'impression en réseau.
Alors, le mot du soir sur la ligne de cœur, eh bien écoutez, on va commencer par une phrase. Vous pourriez la dire, enfin il y a un petit siècle, vous auriez très bien pu dire ça. Si vous souhaitez que je vous allume, madame, pouvez-vous extraire de votre réticule le briquet que vous venez de me subtiliser ? Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est que réticule, et du reste, c'est ce qui donnera aussi par confusion après le mot ridicule. Le réticule, ah ça, on devrait le remettre au goût du...